Il y a quelques mois, on a tout fait bien sûr pour ne pas ébruiter l'affaire, un fabricant de moutarde au bord de la faillite s'est donné la mort en se précipitant dans un bac d'eau usée. Quelques publications pamphlétaires s'étant emparées de l'information et s'apprêtant à en faire leur manchette, les milieux d'affaires sont intervenus à temps pour arrêter ces méchants ragots, bobards absurdes, racontards malsains, prêts à affirmer qu'il s'agissait là d'une contre-vérité relevant purement et simplement du bourrage de crâne le plus abject. La mort du moutardier, fit-on largement savoir, était l'ultime épisode d'un drame passionnel dans la grande tradition vaudevillesque du scandaleux Second Empire. Après une tumultueuse et plus qu'épicée liaison avec une belle mais particulièrement méchante croqueuse de diamants, trublion machiavélique et hargneux, véritable vache folle de son corps, le malheureux industriel avait découvert un beau matin son infortune sentimentale. Cela aime toujours les foules. On fit taire quelques personnes tatillonnes et romanesques qui se demandaient pourquoi l'amant désespéré avait choisi pour mettre un terme à cette belle histoire d'amour le plongeant dans un bac d'eau sale plutôt, par exemple, que la noyade dans un agreste ruisseau. On rétorqua que de nos jours, rivières et cours d'eau, quels qu'ils soient, sont tout aussi, sinon plus, pollués qu'un bac d'eau usé, et que ces objections relevaient d'une pure fantaisie et de la ringardise la plus surannée. Puis, on transforma le fabricant de moutarde en marchand de parapluie, pour écarter tout soupçon. On affirma que la vache folle de son corps avait pris le large, s'étant exilée via la Grande-Bretagne pour vendre sa chair dans une obscure bourgade du Nigeria. Et l'affaire fut enterrée dans un centre d'écarissage de la France la plus profonde, laissant la place à celle des fausses factures, beaucoup moins dangereuses pour le moral du pays, puisque faisant partie de celles que l'on ne mène jamais à leur terme. À quelque temps de là, l'on chuchota néanmoins qu'en réalité le moutardier n'avait jamais eu de rapport de quelque nature que ce soit avec la vache folle de son corps, mais que la désaffection grandissante de la clientèle pour les bœufs transgéniques, l'épouse à la dioxine, à moins que ce ne soit le contraire, les moutons afteux et les porcs gonflés d'eau grasse, avait provoqué une telle mévente de moutarde et condiments divers que son usine, après licenciement massif du personnel, qui en conséquence mangeait de la vache enragée et de surcroît avait la moutarde au nez, avait été contrainte de fermer ses portes. L'on essaya de convaincre les populations que le beurre étant pourvoyeur de mauvais cholestérol dans le sang et les confitures cause de méchant diabète, les tartines à la moutarde forte trempés dans le café au lait matinal leur étaient nettement préférables pour le maintien d'une bonne santé. Mais certains conservateurs rétifs ne voulurent jamais abandonner leurs mauvaises et ancestrales habitudes, allant pourtant à l'encontre des plus récentes découvertes en matière de diététique. D'où le désespoir du moutardier, qui comble de malchance, se vit refuser par les plus hautes instances de l'État la reconnaissance de catastrophe naturelle. Comme il fallait nécessairement trouver un responsable à cette situation dramatique, on commença à regarder de travers le corps médical, qui depuis pas mal de temps déjà reprochait à nombre de patients un régime beaucoup trop carné. comment convaincre tous ces gens de modifier leur régime alimentaire. L'européanisation des fast-foods et autres officines nauséeuses ne changeait rien. Si répugnante fut-elle, on continuait à ingurgiter de la viande. Préconiser une diminution de la consommation de viande ne faisait pas l'affaire des responsables de l'économie mondiale. Ceux-ci se heurtèrent alors avec une violence inouïe au corps médical et scientifique. Perdant la notion de toute logique élémentaire, ils poussèrent à une surproduction de bestiaux nourris avec n'importe quoi. On n'hésitait pas, par exemple, à donner aux porcs des os grasses, composés des écœurants reliefs de plateaux repas de cantine, de vols aériens au long cours, de villages de vacances, passons-en et des meilleurs. Bref, ces cochons-là nous faisaient sans vergogne manger comme des porcs. Le corps médical était sur les rotules. Les milieux scientifiques demeuraient bouche bée. Le pouvoir politique était au 36e dessous, le pouvoir judiciaire était au 7e ciel. Le pouvoir économique exultait. Le vulgum pecus s'empoisonnait lentement mais sûrement. La presse était en pleine effervescence. Et le lecteur de Prompteur du 20h continuait à jouer les beaux ténébreux romantiques, tendrement désabusés, sous l'œil admiratif ou goguenard du pays, ce qui ne l'empêchait pas de caresser chaque mois la poule, dioxinée sans aucun doute, mais aussi sans aucun conteste, aux œufs d'or massifs. C'est alors que les milieux d'affaires se rendirent compte tout à coup qu'il y avait sur la planète beaucoup trop d'animaux à quatre pattes pour nourrir ceux à deux pattes qui avaient de quoi les acheter. On se mit donc à empoisonner une partie des bestiaux en surproduction, et afin de ne pas perdre d'argent, on vendit celle-ci aux plus démunis. C'était là l'une des belles illustrations des bienfaits de la mondialisation prônée par tant de nos modernes penseurs. Comme malgré cela, il restait encore trop d'invendus, on massacra joyeusement des millions de bêtes en bonne santé, dont on fit doucement brûler les carcasses dans de sinistres charniers. Mais Dieu merci, le marché des affaires se portait bien. Le beau ténébreux lecteur de Prompteur et ses nombreux collègues commentait avec un sourire triste les images de ces holocaustes pendant que les repus comme les décharnés se demandaient avec un sourire mi-figue mi-raisin si c'était du lard ou du cochon. Et devant ce gigantesque suicide mondial, certains n'étaient pas loin de penser que la Terre avait perdu la boule.